Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor. Web.
Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes d'Indifférence, l'émission qui traite des handicaps et différences invisibles à travers le vécu d'étudiantes et d'étudiants. Dans le langage courant, quand on parle de handicap, c'est souvent l'image d'une personne en fauteuil roulant qui nous vient à l'esprit. Dans la réalité, 80% des handicaps sont ce qu'on appelle des handicaps invisibles. Autrement dit, des handicaps qui ne se lisent pas sur le visage, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ces handicaps-là dont on va parler. Aujourd'hui, on accueille Katharina, étudiante à l'UNS de Lyon, et qui a de l'endométriose. Bonjour Katharina.
Bonjour.
Selon l'INSERM, l'endométriose est une maladie gynécologique fréquente qui concerne une femme sur 10 et qui est caractérisée par la présence anormale de tissu utérin ou tissu endométrial en dehors de la cavité utérine. Cette anomalie engendre des lésions composées de cellules qui possèdent les mêmes caractéristiques que celles de la muqueuse utérine, donc l'endomètre, et se comportent comme elles sous l'influence des hormones ovariennes. Le symptôme majeur est une douleur pelvienne récurrente, parfois très aiguë, notamment au moment des règles. Les patientes peuvent également souffrir lors des rapports sexuels, c'est ce qu'on appelle la dyspareunie, ou encore lorsqu'elles urinent ou défèquent. Donc là, ce que je viens de lire, c'est la définition scientifique, médicale. Comment toi, tu définirais l'endométriose avec tes mots ?
J'insisterai sur le fait que cette maladie touche beaucoup de femmes, entre une femme sur 10 et une femme sur 5 en âge de procréer. Et je mettrai l'accent également sur le fait que ces cellules d'endométriose ne sont pas du tissu utérin, mais ce sont des cellules qui ressemblent aux cellules d'endomètre en fait, donc aux cellules qui se trouvent à l'intérieur de l'utérus. Donc ce sont des cellules qui sont influencées par le taux hormonal, mais ce sont des cellules qui ne sont pas normales. J'insisterai également sur le fait que ces cellules, en fait, elles forment des foyers d'endométriose qui peuvent se trouver partout dans le ventre, sur les ovaires, dans les trompes, à la vessie, à l'intestin. C'est pourquoi on a mal, non seulement l'utérus, mais aussi ailleurs. Enfin, qu'on peut avoir mal ailleurs.
Une question que je pose à chaque fois, c'est comment tu te définis ? Est-ce que tu as l'impression que le mot de maladie te correspond, puisque c'est celui qui est employé généralement ? Est-ce que tu préfères le mot de handicap, le mot de différence ? Voilà, quel mot te correspondrait le plus ?
Je ne m'identifie pas au handicap, parce que justement je ne suis pas diagnostiquée handicapée. Maladie me convient bien, maladie chronique me convient bien, parce que c'est une maladie chronique.
À quel âge est-ce que tu as été diagnostiquée ?
En fait, c'est un peu compliqué. Parce que les premiers symptômes sont apparus quand j'avais 12 ans à peu près. J'ai commencé à avoir mes règles à l'âge de 11 ans. À partir de 12 ans, ça a été compliqué, avec des douleurs très prononcées dans le ventre et une perte de sang assez prononcée, assez importante. Et à l'époque, je n'avais pas conscience d'une maladie qui s'appelle endométriose. J'en ai pris conscience à l'âge de 17 ans à peu près. J'ai commencé à prendre la pilule à 15 ans parce que je suis allemande. Et à 15 ans, je suis partie en France et je ne voulais pas que mon année en France soit marquée de douleurs atroces. C'est pour ça que en fait, j'ai commencé à prendre une pilule combinée. Qui est normalement pas conseillé pour l'endométriose. Bref. À l'âge de 18 ans, j'ai parlé avec ma gynéco de l'endométriose parce que j'avais entendu ce mot, parce que je m'y retrouvais. Et ma gynécologue m'a dit « Ah ben non, vous l'avez pas, c'est sûr, parce que c'est une maladie qui apparaît plus tard dans la vie, quand on a 20 ans, 30 ans, etc. et pas quand on a 11, 12, 13, 18 ans. Alors, c'est faux. j'ai pris la pilule entre mes 15 ans et mes 22 ans, 23. Après, j'ai arrêté de prendre la pilule pendant 2 ans. Et les douleurs que j'avais ressenties comme ado sont revenues, mais d'une manière beaucoup plus forte. Et donc là, j'étais quasiment sûre que c'était pas normal. Et donc, à 25 ans, j'ai pris rendez-vous au centre d'endométriose, donc dans un hôpital spécialisé pour l'endométriose. C'est là que ce soupçon s'est fortifié, je ne sais pas si ça se dit. Mais c'est un peu compliqué parce que le diagnostic en Allemagne se fait différemment de la France. En France, ce qu'on fait d'habitude pour diagnostiquer l'endométriose, c'est qu'on fait faire une IRM. Et une IRM, normalement, suffit pour, en France en tout cas, pour diagnostiquer l'endométriose, parce qu'on voit en fait le tissu endométrial, enfin les foyers d'endométriose, donc ce rassemblage de cellules. Et en Allemagne, on suppose que ça ne suffit pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qu'on fait en Allemagne, c'est que, en fait, on dit que le seul moyen de diagnostiquer l'endométriose, c'est par une laparoscopie. Donc, en fait, une opération où on insère, donc sous anesthésie générale, où on insère une caméra ou deux dans le ventre et on regarde, en fait, des foyers d'endométriose, s'il y en a. Ça a l'avantage de pouvoir enlever tout de suite ces foyers. Ça a l'inconvénient, évidemment, qu'on doit se faire opérer. Moi, je trouve ça complètement absurde de passer par l'opération avant de passer, de pouvoir passer par une IRM, parce que pour moi, l'opération devrait être le dernier moyen. Je savais qu'en France, pour le diagnostic, une IRM suffirait, enfin, était suffisante. J'ai insisté pour qu'on me fasse faire une IRM. Après des mois de discussion, ils ont bien voulu. Et en effet, on a vu ce tissu endométrial sur l'IRM. Mais ça fait aussi que, comme je ne suis pas passée par l'opération, je n'ai pas le diagnostic officiel en Allemagne. Ce qui fait aussi que, par exemple, je dois payer ma pilule moi-même, enfin le traitement moi-même. Mais j'avais 25 ans quand j'ai eu le diagnostic, parce qu'en fait, c'est ça. Je suis sûre qu'un médecin français aurait été sûr et certain de ce diagnostic. L'Allemagne m'a dit c'est fort probable, mais par contre, pour avoir la certitude, il faut passer par une laparoscopie.
Donc là, t'expliquais que quand t'as vu une gynéco à 18 ans, elle t'a dit que c'était sûr que t'avais pas d'endométriose. Est-ce que t'es passé par d'autres diagnostics avant, que ce soit des diagnostics officiels ou officieux ?
Concernant mes douleurs, alors non. Parce que dès que je parlais de mes douleurs et de mes pertes de sang importantes, on m'a dit que c'était normal, que c'était pas possible que je perdais autant de sang. Ça a un effet de dissonance cognitive assez drôle, parce que, par exemple, en cours de SVT, on m'a dit qu'une femme perdait 2 cuillères à soupe de sang par mois. Et je sais pas comment j'ai pu intégrer ça avec... avec ces pertes importantes de sang que je vivais chaque mois. Mais dans ma tête, j'étais pas malade, je perdais pas plus de sang que les autres. Et c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à utiliser la coupe menstruelle, où on peut vraiment voir combien de millilitres on perd, que j'ai vu qu'en effet, je perdais beaucoup trop. En moyenne, 300 millilitres de liquide par mois. En fait, ce que j'ai vécu, c'est que à chaque fois que je parlais de ma maladie, à chaque fois que je parlais, donc déjà au moment où j'étais sûre que je perdais tellement de liquide par mois, ce qui faisait que j'avais un manque de ferritine assez bas, enfin un taux de ferritine assez bas, un taux de fer assez bas, mes médecins m'ont demandé comment j'étais sûre que c'était lié à mes règles, comment je mesurais la perte de sang. Donc tout de suite une remise en question de moi-même.
Et donc justement, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, donc notamment par rapport au sang, parce que donc une des questions que je voulais te poser, c'était par rapport au signe. Mm-hmm. Donc tout à l'heure, tu mentionnais la douleur. Ouais. Et par rapport au sang, tu vois, je me dis, du coup, tu considères que c'est vraiment le fait d'avoir une cup, donc une coupe menstruelle, qui t'a permis de prendre conscience que tu perdais plus de sang que ce qui était normal, entre guillemets ?
Oui, tout à fait. En fait, comme ma douleur, comme mes ressentis ont toujours été remis en question par ma mère, par l'école, par les professeurs de sport, enfin d'éducation physique et sportive, je me suis toujours, j'avais toujours l'impression que, mes douleurs, c'est pas si grave. je m'invente des trucs, enfin, j'exagère. Et c'est au moment où j'avais des difficultés à monter au deuxième étage de la bibliothèque à Fribourg que je me suis rendu compte que j'avais un manque de fer et que éventuellement c'était lié à une perte de sang assez importante. En même temps, en fait, j'ai pris conscience de cet essoufflement au même moment que j'avais mes règles et qu'en fait j'avais en fait que je devais changer ma coupe trois fois en une heure. Donc en fait, ma coupe a un volume de 40 millilitres à peu près, donc je perdais plus de 100 millilitres en une heure en fait. Et c'est là que je me suis dit, oula, en fait, il y a un problème. Donc c'est en fait par cette perte de sang que je me suis rendu compte qu'il y a un vrai problème. En plus, comme j'avais un taux de fer et un taux de ferritine assez bas, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas un problème qui est apparu aujourd'hui, mais qu'en fait, il perdure depuis des mois. Et c'est après, en fait, que je me suis rendu compte que je pouvais pas vivre mes règles sans prendre des antidouleurs. Je sais pas pourquoi j'avais pas pris conscience avant, mais c'est là que je me suis vraiment aperçue que ça faisait des mois et des mois que j'avalais des antidouleurs, alors que au départ, juste après avoir arrêté la pilule, pendant 5 mois, 6 mois, c'était pas possible, enfin c'était pas nécessaire.
Et justement là, tout ce que tu racontes par rapport à la coupe menstruelle, ça arrive à quel âge ça, du coup, ce moment où vraiment tu prends conscience qu'en fait tu perds plus de 100 millilitres par heure?
Alors j'avais pris la pilule entre mes 15 et mes 22-23 ans, donc entre mes 23 et mes 24 ans, j'ai vécu des cycles à peu près normaux, quoique éventuellement mes souvenirs sont un peu teintés, voilà. C'est justement à l'âge de 24 ans, en 2018, que je me suis rendu compte que y a un problème.
Et pour revenir sur la question des douleurs, là j'imagine qu'une part des auditrices peut avoir une idée et peut se représenter de ce que c'est que la douleur des règles normales. Mais pour celles et ceux qui ne parviendraient pas à se représenter la douleur, est-ce que tu saurais la décrire ?
Il faut dire que le corps est quand même fait de manière formidable parce qu'il oublie. Mais ce que je peux dire, que j'avais si mal que les antidouleurs ne prenaient plus effet. Donc les doliprane ne fonctionnaient plus. Et en fait, il fallait que, dès que j'ai mes règles, que je prenne tout de suite un doliprane pour qu'il prenne effet. Parce que si j'attendais 4 heures ou 3 heures, parce qu'en plus j'ai grandi avec l'idée que les antidouleurs, c'est pas bien, c'était trop tard en fait. Et j'étais dans une sorte de tornado de douleur que j'arrivais plus à stopper. Et pour décrire la douleur... Alors déjà, il faut dire qu'il y a différents symptômes de l'endométriose. Il n'y a pas que la douleur dans le bas-ventre. Mais pour décrire la douleur dans le ventre, c'est une douleur atroce, une douleur assez constante qui ne bouge pas, ce qui permet en fait d'être allongé et de ne pas bouger et de survivre en fait. Et à des moments, mais enfin, je veux dire une douleur qui ne permet de ne rien faire. Enfin, je peux pas regarder un film, je peux pas écouter de la musique, je peux juste être allongée là. Et à des moments, il y a des crampes qui s'ajoutent, qui font que tout le corps se crispe. Déjà, tout le corps est crispé pendant que j'ai mes règles. Mais à ce moment-là, c'est encore plus grave. Je dois gémir parce que ça fait tellement mal. Et ouais, donc. C'est comme, je ne sais pas comment le décrire. C'est comme si quelqu'un prenait l'utérus dans la main et formait un point avec la main. C'est atrocement douloureux.
Oui, donc si on devait le rattacher à une douleur que d'autres personnes peuvent comprendre, c'est pas forcément une brûlure, mais plus le fait de vraiment se sentir écrasé. Parce que du coup, là, vous pouvez pas voir, mais en fait, on est dans le studio, pour me mimer la douleur, elle a pris sa main et vraiment resserré sa main. C'est un peu comme si on prenait son utérus et qu'on vraiment on le serrait, effectivement, quelque chose de très comprimé.
Oui, et en même temps, je sais pas, certaines femmes le décrivent comme, je sais pas, une centaine de couteaux qu'on nous met dans l'utérus. Oui, enfin, je peux... Je comprends cette image aussi. Enfin, en fait, cette douleur est tellement omniprésente que je peux pas la décrire autrement que ça. Elle est tellement omniprésente qu'on ressent que la douleur. J'avais lu un livre qui citait une étude scientifique qui disait que l'endométriose faisait partie des 10 maladies les plus douloureuses qui existent, avec des maux de tête cluster et le cancer.
Et pour revenir sur la question des signes, là tu le décrivais bien, le fait que c'est vraiment toi qui les as repérés, donc que ce soit la douleur, en même temps c'est facilement repérable, on va dire, le sang aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, des gens autour de toi s'en doutent? Parce que j'imagine, voilà, tu dis que tes règles ont commencé à 11 ans, à ce moment-là tu es au collège puis au lycée, est-ce que c'était visible? Est-ce que tes amis le remarquaient? Ou est-ce que c'est... Enfin, ou est-ce qu'en fait, tu as été la seule alertée par ces signes-là?
Alors déjà, j'étais pas alertée. Je pensais que c'était normal, parce que tout le monde, enfin, parce que personne nous avait répété, personne nous avait dit que avoir mal pendant les règles était pas normal. On pensait que c'était normal. Et comme je disais, pour la perte de sang, je me suis aperçue avec la coupe, parce que avant, je me suis dit, je me fais des idées. Du coup, non. Personne ne s'est douté. On pensait que j'exagérais. En cours de sport, par exemple, on avait une professeure qui nous disait « Ah bah, ne pas participer au cours de sport, mesdames, enfin mademoiselle, c'est pas possible parce que moi aussi, je suis une femme, j'ai mes règles, donc je participe au sport. » Voilà. Non, et même ma mère, qui vient du secteur de la santé, qui travaille dans le secteur de la santé, ne s'en doutait pas. Non, non. Pas du tout.
Et je voulais revenir sur le moment où tu as reçu le diagnostic. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu as reçu ce diagnostic? Est-ce que c'était de la soulagement? Parce qu'en fait, enfin, on posait un mot. Est-ce que c'était de la frustration? Est-ce que c'était de la colère, de la peur, de la tristesse? Est-ce que tu pourrais un peu décrire vraiment ce moment où en fait, on pose enfin un mot dessus, on te confirme ce que tu penses depuis déjà longtemps?
Quand j'ai reçu le diagnostic, je ressentais du soulagement, clairement, parce que j'avais tellement insisté de faire une IRM au lieu de passer d'abord par la laparoscopie, parce que je voulais être sûre, je voulais exclure les autres possibilités de maladie. Et quand on voyait les foyers d'endométriose sur les images, oui, j'étais vraiment soulagée. Et je me suis dit, d'accord, on peut passer à la deuxième étape, je peux me faire opérer si je veux, je peux prendre un médicament. En fait, c'était aussi ça, je voulais pas prendre la pilule, parce que je me suis toujours dit, les règles, c'est normal, mon corps doit pouvoir s'y prendre, c'est quelque chose de normal, pourquoi il souffre autant? Je veux pas qu'il souffre, donc j'étais vraiment en colère contre lui. Et quand j'ai eu ce diagnostic, quand j'ai vu les images, je me suis dit, non, en fait, c'est normal, c'est une maladie, il peut pas gérer ça. Donc c'était du soulagement et le sentiment de pouvoir passer à une deuxième étape. Et aussi le sentiment, d'accord, si je décide maintenant de prendre la pilule pour sortir de ce cycle de la douleur et de la perte de sang et de prise de substituts de fer ça ne marche pas parce que tous les mois je perdais 300 millilitres de sang. Maintenant, en fait, je peux passer le cap, je peux prendre la pilule parce que maintenant, ça a un sens.
Et je voulais juste revenir parce que donc, tout à l'heure, tu expliquais qu'à 18 ans, donc, tu vois une gynéco et où tu te dis, j'ai entendu parler de l'endométriose et je pense que c'est ça. Et elle te dit non, elle te dit que c'est pas ça, que c'est pas possible. À ce moment-là, comment t'entends parler de l'endométriose? À quel moment tu te rends compte qu'en fait, c'est peut-être ça que tu as?
J'ai entendu parler de l'endométriose pour la première fois grâce à deux... chaîne féministe, grâce à Mademoiselle qui était un magazine féministe, qui parlait pas mal de l'endométriose à l'époque, et grâce à une chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Parlons peu, parlons cul, qui s'appelle maintenant, Parlons peu, mais parlons, mais qui actuellement ne produit pas de vidéos, qui a parlé de l'endométriose, et je me suis retrouvée dans la description des symptômes. J'ai rencontré une jeune femme qui est atteinte d'endométriose et on a parlé des symptômes et je me suis pas mal retrouvée. Et elle aussi, elle m'a dit, écoute, ça semble être quand même de l'endométriose, creuse un peu plus. C'est comme ça que j'ai conçu la possibilité qu'éventuellement, ça serait l'endométriose.
Et justement, pour rebondir par rapport à ça, donc par rapport à cette jeune femme à qui tu parles et qui t'explique ce que c'est que d'avoir de l'endométriose, est-ce que toi, au moment où tu reçois ton diagnostic, t'en parles autour de toi, à tes amis, ta famille?
Alors, évidemment, que j'en parle autour de moi. Évidemment que mes amis et ma famille sont au courant. Ce que le diagnostic m'a permis, c'est que j'ai l'impression d'avoir plus de légitimité quand je loupe un examen, par exemple, parce que je ne dois plus expliquer au médecin bah, j'ai des douleurs là, là et là, et je perds beaucoup de sang, et j'ai pas d'énergie, et j'ai des nausées, etc. Mais je peux juste dire j'ai l'endométriose. Comme ça, en fait, j'évite le fait qu'il remette en question ma parole. Et qu'il accepte tout juste que j'ai mal. Parce qu'encore une fois, c'est de plus en plus accepté qu'on a des douleurs quand on a l'endométriose, et c'est comme un argument d'autorité. par contre, si on dit « j'ai mal parce que j'ai mes règles », ah bah c'est normal, retiens-toi, ça va aller. Prends un petit cachet de Doliprane et ça va aller, alors que c'est pas comme ça. L'endométriose peut avoir de différents visages, et je peux parler de mes différents symptômes que j'ai eus et qui ont rendu nécessaire d'aller dans un centre d'endométriose pour avoir la certitude d'avoir cette maladie. J'ai parlé des douleurs au ventre atroce, mais c'est pas les seuls symptômes. Ce qui était assez prononcé chez moi, c'était des douleurs dans l'intestin. Tu as parlé de la défécation. Justement, j'avais très 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 mal quand j'allais aux toilettes. Donc j'avais mal au rectum, une douleur qui s'est accrue au fur et à mesure. Au départ, c'était juste le premier jour des règles. Et vers la fin, donc avant de prendre la pilule définitivement, que je prends depuis un an, j'avais mal pendant 10 jours. Donc il fallait sans cesse que j'aille aux toilettes et ça me faisait mal. J'avais mal dans le bas dos. Ce qui est pas malin quand on doit être allongé pendant toute la journée et quand on a encore mal au dos, faudrait en fait plutôt bouger, mais du coup je pouvais pas. Ce qui était grave aussi qui était vraiment pas pratique, c'était des douleurs dans le vagin, parce que du coup je pouvais pas utiliser des serviettes parce que je perdais trop de sang, donc j'étais obligée de prendre, d'utiliser une coupe menstruelle assez, avec un volume assez grande pour ne pas changer la coupe tous les 10 minutes. Comme j'avais des douleurs dans le vagin, ça me faisait ultra mal de la changer. Et donc quand je perdais, le deuxième jour de mes règles, je perdais 200 ml en une journée. Et donc parfois je devais changer la coupe toutes les demi-heures. Ça faisait hyper mal. J'avais donc bien sûr aussi la diarrhée, des nausées, mal à l'estomac et un ventre très gonflé. Donc voilà, je crois qu'on parle encore de l'endométriose comme le caméléon des maladies, c'est tout à fait ça. Quand j'ai eu le diagnostic, j'ai commencé à reprendre la pilule, parce que maintenant je m'autorisais à prendre la pilule, mais j'avais peur d'une pilule non combinée, c'est-à-dire qu'une pilule qui bloque tout, qui bloque les règles. Du coup, j'avais pris une pilule combinée qui permettait quand même d'avoir les règles tous les mois, et au bout d'un certain temps, elle n'a plus fait effet, ce qui a fait que pendant 2 mois, j'avais mal tout le temps, tous les jours, même en dehors des règles.
Et du coup, pour continuer sur la question du rapport aux autres, est-ce que tu as l'impression que, de manière générale, ça a pu t'exclure de certaines choses ? C'est-à-dire, tu parlais du sport, mais de toute façon, l'action du sport, on y reviendra un peu après. Voilà, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des moments où, je sais pas, des moments de festivité, voilà, le fait d'avoir mal en permanence et de manière très, très importante, ça a pu t'exclure de certaines choses ?
Oui, tout à fait. Alors, oui, justement, quand j'étais au collège, bien sûr, j'étais exclue du sport. Aussi, ce qui est compliqué quand on est ado, c'est que. Quand justement il y a le corps qui change, la puberté qui arrive, etc. Moi j'avais le besoin de cacher non seulement le changement physique, mais aussi donc cette douleur qui était liée aux règles. Et donc j'en parlais pas du tout autour de moi à l'âge de 13-14 ans bien sûr. Plus tard dans la vie adulte, ça m'est arrivé bien sûr de louper des concerts, des soirées avec des amis, Mais ça, c'était pas le plus grave. Pour moi, le plus grave, c'était de rater les cours et les examens. Et de devoir aller chez les médecins et de devoir justifier pourquoi je suis pas capable de faire cet examen ce jour-ci parce que j'ai trop de douleurs. Aussi, ce qu'on sous-estime, je pense, c'est que il faut aller chez le médecin et pour avoir un arrêt maladie, mais quand on peut pas bouger, quand on peut pas sortir de chez soi, bah c'est hyper compliqué. Parce que si je peux aller chez le médecin, bah je peux aussi aller en cours et faire cet examen, alors que non. Enfin, il y a aussi Enfin, je ressentais le besoin, avant d'avoir ce diagnostic, justement de me battre en quelque sorte contre moi-même et de ne pas me laisser exclure. J'ai un rapport assez compliqué avec des antidouleurs, j'en voulais pas en prendre. Et à un moment, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il faut que j'en prenne, en fait. Et j'ai commencé à prendre des antidouleurs plus fortes, donc qui ont pu faire effet. L'ibuprofène, par exemple, que je prenais pas. Mais enfin, à l'époque, je prenais que du Doliprane, pour illustrer le fait que je voulais pas m'exclure justement de tout ce que je voulais faire et de la vie. Juste avant d'avoir le diagnostic en 2019, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques alors que je prenais pas la pilule et j'étais sûre d'avoir au moins une fois mes règles et ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce chemin. Et aussi, c'est à ce moment-là que, justement, j'ai surmonté un peu cette peur des antidouleurs, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais absolument besoin. Et je me suis aussi rendu compte que le sport, en fait, la randonnée, me faisait du bien. Aussi que, et bien sûr, sur le chemin, il y avait des moments où j'étais juste allongée sur l'herbe en train de souffrir et attendre que la douleur passe. Mais oui, il y a justement cette volonté de ne pas me laisser abattre par cette douleur. Et en même temps, la prise de conscience qu'en fait, il faudrait y aller plus mollo, quoi. Et de, justement, de ne pas devoir supporter toute cette douleur. Parce que ça peut causer des traumatismes de douleur dans le corps, une mémoire physique qui se souvient de la douleur et qui, enfin, moi, me cause parfois des crises d'angoisse quand j'ai de nouveau des maux de ventre. Mais je sais pas en fait à quel point c'était lié à une pression sociale de devoir combattre ce corps et aller au-delà de la douleur. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose à creuser.
Pour revenir sur la question du sport, tout à l'heure, c'était un des exemples que tu citais, parce que moi, une des questions que je pose quand même assez souvent, c'est la question de la stigmatisation et ou de la minimisation. C'est quelque chose que tu disais au début. Tu disais, on m'a dit que c'était normal, que tu pouvais pas perdre autant de sang. Voilà, tu disais que ça a été mis en question par tes parents, par tes profs, etc. Comment tu vois ça aujourd'hui avec un peu plus de distance ?
Je trouve ça aberrant de faire comprendre à quelqu'un qui souffre, qui doit mettre deux serviettes pour pouvoir tenir, deux heures en fait, qui doit prendre des antidouleurs avant d'aller au collège pour tenir au moins 5 heures avant de devoir revenir à la maison pour s'allonger. Je trouve ça aberrant de lui dire non en fait c'est normal. Les douleurs, c'est normal. C'est normal d'avoir, mal quand on a ses règles parce que t'es une femme et parce que c'est normal. Ça me met vraiment en colère que cette professeure de sport, juste parce qu'elle est une femme, juste parce qu'elle a la chance de ne pas avoir l'endométriose, juste parce que elle a des règles normales qui lui permettent de faire du sport, qui lui permettent de participer à la vie pendant qu'elle a ses règles. Je trouve ça aberrant qu'elle nous dise, qu'elle m'a dit à moi et à toutes les filles en classe que c'était pas normal parce que pour elle, il y avait pas de problème, donc il y avait pas de problème pour les autres. À mon avis, en même temps, ça se fait, cette formation, cette sensibilisation à l'endométriose, ça se fait de plus en plus. C'est une maladie qui devient de plus en plus connue, grâce aux efforts féministes aussi. Donc, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais j'aimerais que les jeunes filles apprennent à se prendre au sérieux, à la fois pour les douleurs et pour la perte de sang. Parce qu'en fait, j'avais cru qu'il y avait une case où il fallait entrer et j'avais cru que j'y entrais, justement, les deux cuillères à soupe de sang qu'on perdait, qu'on nous racontait en cours de SVT, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait, enfin, j'hallucine, enfin, je sais pas ce que je disais, mais ce que je me disais, mais en fait, je croyais que c'était normal.
Et justement, par rapport à ça, est-ce que t'as l'impression que le fait de réussir à en parler et le fait d'avoir un diagnostic, ça a permis de diminuer cette stigmatisation et cette minimisation?
Pour moi, oui, tout à fait. Pour arriver à un diagnostic d'endométriose, c'est une vraie bataille. J'ai dû insister pour pouvoir faire une IRM. J'ai dû insister pour que le corps médical me prenne au sérieux. Si je n'avais pas le soutien d'une médecin, bon, qui n'était pas gynécologue, mais qui m'a vraiment soutenue dans toutes ces démarches, je ne sais pas comment j'aurais fait. L'avantage du fait qu'on parle d'endométriose et que, justement, on prenne au sérieux les gens qui sont diagnostiqués. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à se faire diagnostiquer parce que leurs médecins leur disent, et leurs gynécologues leur disent, « Ah bah c'est normal, ne vous en faites pas, prenez un Doliprane, allongez-vous pendant un jour, et ça va aller. » Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de gouffre qui se forme entre les gens diagnostiqués, qui heureusement sont diagnostiqués, et ceux qui ne le sont pas. À mon avis, il faudrait plus de sensibilisation de la part du corps médical qui doit prendre au sérieux les femmes.
J'avais un peu deux questions en une. Est-ce que d'une part, tu as encore des remarques comme ça aujourd'hui? Et est-ce que d'autre part, si c'est effectivement le cas, tu arrives à leur répondre et à leur expliquer qu'en fait, c'est une maladie et que effectivement, tu as mal et qu'ils ne sont pas censés relier ta douleur?
Alors, actuellement, je prends un traitement qui arrête tout le cycle, ce qui fait que j'ai plus de douleur, ce qui fait aussi que j'ai plein d'effets secondaires, mais passons. Du coup, actuellement, je ne suis pas en situation de devoir répondre aux gens. Mais l'année dernière, quand je prenais la pilule combinée et où des douleurs constantes pendant 2 mois sont apparues, j'ai essayé de prendre rendez-vous avec ma gynéco, qui l'a refusé en me disant que... Enfin, en fait, non, elle ne m'a pas refusé. Elle m'a proposé un rendez-vous 3 mois plus tard. Ce que j'ai trouvé absurde, puisque j'avais des douleurs tous les jours. Et je savais que c'était lié à l'endométriose et j'étais presque en panique parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, que font ces foyers d'endométriose? Et du coup ce qui est compliqué, c'est que quand on a l'endométriose, quand on a ces douleurs, on est dans une situation de détresse et du coup on n'est pas si ferme dans les réponses, si spontané dans les réponses parce qu'on a juste besoin d'aide. Du coup non, pendant ces moments-là, j'arrive pas à leur répondre. Mais actuellement, je suis dans une situation privilégiée où justement, j'ai pas de douleur, où je suis entre guillemets en bonne santé, parce que je perds pas de sang, parce que j'ai un taux de ferritine et de fer normal. Et du coup, oui, là, je peux, je réponds aux gens, mais en même temps, je suis pas dans une situation où c'est vraiment nécessaire.
On en a déjà un peu parlé, mais je voulais un peu revenir sur l'aspect scolaire. Tout à l'heure, tu disais que ça avait eu un impact sur, par exemple, le fait que se lever pour un examen, c'était beaucoup d'efforts. Est-ce qu'à cause de ça, tu as loupé des examens ou des concours qui étaient importants?
Oui, justement, c'était un problème de l'université. Pas tant de l'école ou du collège ou du lycée. Alors justement, quand j'étais en prépa, j'étais sous pilule et elle m'a bien aidée. Donc j'avais arrêté la pilule à l'âge de 22 ans quand j'étais déjà sortie de la prépa. Quand j'avais dû recommencer une licence du coup en sociologie en Allemagne, oui, en effet, j'ai loupé beaucoup d'examens. Et c'était une lutte pour arriver chez le médecin pour avoir cet arrêt maladie. Oui, en effet, j'ai loupé des examens, enfin, j'ai dû passer au rattrapage, quoi. Donc, au final, c'était pas si grave et j'ai pas passé des concours très importants. Mais il est vrai que le choix pour la pilule que je prends actuellement, qui arrête tout le cycle, c'était pas un choix, je sais pas, que j'ai pris dans la liberté, mais un choix vraiment forcé, enfin, je le vis comme ça, pour arriver à vivre normalement et aussi pour pouvoir... réussir mes études supérieures, enfin mes études de master du coup. J'aurais pas pu survivre mon M1 en ayant des douleurs atroces. C'est bête, en fait, d'être amené à choisir entre la réussite universitaire et le fait de ne pas prendre un médicament, même si, bon, je suis obligée un peu de prendre ce médicament pour pouvoir vivre normalement. Mais je pense, enfin, je sais pas, en fait. Si j'étais pas en M1 l'année dernière, peut-être que je me serais fait opérer l'année dernière pour enlever ces foyers, pour avoir moins de douleurs et pour pouvoir vivre sans hormones. Mais je me voyais pas comment j'aurais pu faire ça l'année dernière, alors que j'ai vécu une année universitaire très très stressante.
Et je voulais aussi revenir sur la question des aménagements, parce que donc là tu parlais des arrêts maladie. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est un aménagement. Est-ce que là, par exemple, depuis que tu es à l'ENS, il y a des gens qui sont au courant dans l'administration, et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, en fait, concrètement?
L'ENS, il y a personne qui est au courant. Non, personne n'est au courant, sauf mes amis, bien sûr. En ce moment, j'ai pas besoin d'aménagement parce que j'ai pas de douleur. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres qui sont atteintes d'endométriose, mais je voyais mal, même l'année dernière, enfin les années d'avant, en Allemagne, je sais pas comment j'aurais pu, enfin quels aménagements m'auraient aidé. Ce qui m'aurait aidé, en fait, ça aurait été des arrêts maladie par coup de téléphone quand j'arrivais pas à sortir. Parce que moi, j'étais soit dans l'incapacité absolue de faire quoi que ce soit à cause de la douleur, je pétais la forme. voilà.
Et justement, par rapport aux arrêts maladie par téléphone dont tu parlais, est-ce que tu as l'impression que depuis la crise sanitaire qu'on a tous et toutes traversée, où du coup il y a eu un développement quand même relativement massif des téléconsultations et de toutes ces manières de consulter des médecins à distance, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé?
Alors, je sais pas, parce que j'étais pas dans le cas de devoir prendre un arrêt maladie à cause de l'endométriose depuis mars 2020. Les douleurs que j'avais ressenties l'année dernière entre novembre et janvier ne tombaient pas dans la période des partiels. En Allemagne, c'est plus tard. Du coup, j'étais pas dans le besoin.
Et on en a déjà pas mal parlé, mais je voulais quand même revenir sur la question du traitement, parce que tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé donc de cette pilule, tu as parlé des antidouleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui... ton traitement, concrètement, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si tu as le droit ou si tu veux te donner un nom de médicament. Est-ce que tu dirais que c'est efficace à 100%?
Ah. Alors, pour les traitements, en fait, il y a deux possibilités. Donc, pour le traitement proprement dit... soit on se fait opérer et on enlève les foyers d'endométriose et on espère et on croise les doigts qu'ils ne reviennent pas ou pas rapidement. Soit on prend la pilule et la pilule non combinée justement, mais la pilule qu'on prend en continu qui arrête tout. Ce sont les seuls traitements qui sont reconnus. Après, tout ce qui est antidouleur, etc., un médicament aussi qui m'a beaucoup aidée, qui arrête le flux menstruel trop abondant. C'était vraiment un vrai soulagement quand on m'en a parlé. Ce sont juste un pis-aller, en fait. Le problème des antidouleurs et de ce médicament qui stoppe un peu le flux, déjà, ce sont des médicaments qu'on prend en continu et c'est pas hyper bien, j'imagine, de prendre des antidouleurs presque tous les jours. Et en fait, un effet secondaire non désiré pourrait être que justement ce corps subit un traumatisme de douleur parce qu'il souffre, en fait, il souffre en permanence de cette douleur. Et même avec des antidouleurs qui ne fonctionnent pas souvent ou pas tout le temps, ça lui fait pas de bien. Je parle d'expérience. Voilà, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est cette pilule que je prends en continu, qui me permet en fait de vivre ma vie normalement. Je comprends toutes les femmes qui veulent plus s'entendre parler de la pilule, moi non plus. Et si j'avais le choix, je la prendrais pas, mais je suis obligée. Je trouve ça vraiment absurde qu'au XXIe siècle, les seules deux possibilités de traiter l'endométriose, ce soit la pilule, enfin les hormones, la thérapie hormonale comme on dit. Pour moi, c'est pas une thérapie, c'est juste la pilule, quoi. Et l'opération. Après, ce qui se fait apparemment en France Notamment à Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse, il me semble. C'est un traitement par laser, je crois. C'est tout nouveau. Bon, j'avais pensé à m'informer de cette possibilité d'enlever les foyers d'endométriose d'une manière non intrusive, mais je ne suis pas sûre en fait que ma caisse de maladie allemande prenne en charge ça. Je suppose que non. Mais à voir, peut-être que les caisses de maladie en France prennent en charge cela.
Et justement, je voulais revenir sur le fait que tu dises que tu étais obligée de prendre la pilule. Parce que concrètement, comment tu te positionnes par rapport à l'opération ? Est-ce que c'est quelque chose que tu refuses catégoriquement ? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager plus tard ?
L'opération est quelque chose que je pourrais envisager plus tard, mais pas actuellement. Déjà parce que je serai en arrêt maladie pendant, je ne sais pas, une dizaine de jours, deux semaines, et je ne vois pas comment je pourrais le caler dans ces études très prenantes que je suis actuellement. Aussi, mais c'est quelque chose de très très personnel, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a dû se faire opérer plusieurs fois des trompes et de l'utérus. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle non plus, mais ça a fait que plus tard, quand elle a voulu avoir un deuxième enfant, donc moi, parce que c'est ma mère, ça n'a pas, enfin c'était hyper compliqué. Je sais que c'était il y a presque 30 ans, mais j'ai un peu peur quand même de cette cicatrisation, parce que chaque opération, c'est quand même une intrusion dans le corps qui doit cicatriser, et j'ai peur en fait de ne pas, enfin d'avoir des problèmes plus tard. C'est pour ça que je pense que j'envisagerai l'opération au moment où je voudrais avoir un enfant et où ça ne marche pas par voie naturelle, dite naturelle. Pour enlever éventuellement les foyers d'endométriose qui éventuellement se seraient mis dans les trompes.
Et est-ce que tu as l'impression que ça t'a fait renoncer à certains rêves, à certains buts ? Parce que tout à l'heure, tu as dit une phrase, alors je ne l'ai pas notée exactement. Tu disais, c'est bête de devoir choisir entre la scolarité et le fait de ne pas prendre un médicament. Est-ce que tu as l'impression que ça... Que ouais, ça... avoir de l'endométriose, ça te limite, que ça t'empêche d'accéder à certaines choses ?
Alors, ça m'empêche déjà de vivre un cycle. Ça m'empêche de vivre un cycle, entre guillemets, naturel. Je suis féministe et assez fan de tout ce qui est santé féminine. Je suis très intéressée par tout ce qui touche à la santé féminine. Ça m'énerve vraiment de ne pas, enfin, d'être obligée de couper ce cycle, de ne pas pouvoir le vivre parce que, bon, plus maintenant, mais au départ, juste après avoir arrêté la pilule à l'âge de 23 ans, j'ai vécu un aperçu de comment pourrait être un cycle normal pendant 6 mois à peu près, donc avec l'ovulation tout ce qui est, enfin, cette libido qui change selon le moment du cycle, je trouve ça très très beau. Et oui, je trouve que cette pilule, ce traitement et l'endométriose m'empêchent de vivre ça, oui, tout à fait. Et aussi, ce traitement m'empêche aussi de vivre une vie sexuelle épanouie parce que j'ai plus de libido. Donc oui, c'est un choix en fait, c'est un choix entre la douleur mais un minimum de libido et pas de libido du tout mais pas de douleur. Je trouve ça injuste.
Tout à l'heure, je réfléchissais par rapport à ce que tu disais sur le fait d'avoir des enfants. Enfin, tu vois, quand tu parlais de ta mère et du fait que... Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression que ça te fait réfléchir ou qu'en tout cas que ça pourrait être empêché d'avoir des enfants ?
Ah oui, tout à fait. En fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que 50% des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants sont atteintes d'endométriose et ne peuvent pas avoir d'enfants à cause de l'endométriose. J'ai peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais c'est une question qui actuellement ne se pose pas je vais m'en occuper au moment où où il y aura quelqu'un dans ma vie et où je serai prête et où cette personne sera prête aussi. Donc pour l'instant, non, ça ne m'empêche pas.
Je voulais revenir sur l'aspect étudiant. Parce que donc souvent quand on pense aux étudiants, aux étudiantes, on pense à la vie étudiante, à la vie associative qui va avec. Là, t'es à l'ENS depuis septembre, et du coup, tu vis cette vie étudiante avec la pilule. Comment ça se passe ? Est-ce que ça a un impact sur ta vie étudiante à l'ENS ou pas tant que ça ?
Spontanément, je dirais que honnêtement, j'ai pas trop envie de faire la fête et de rencontrer des gens avec qui il peut se passer des choses. sexuelle parce que justement j'ai pas envie à cause de la pilule. Donc c'est quelque chose de la vie étudiante que du coup je peux pas, enfin j'ai pas vraiment grand intérêt à faire actuellement, alors que j'aimerais bien, enfin d'un niveau cognitif, enfin je me dis ça serait quand même sympa, mais j'ai juste pas envie. Donc oui, c'est quelque chose qui du coup, enfin qui a un impact du coup sur ma vie étudiante, mais à part ça non. Non, parce que sinon je vais bien actuellement, tu vois, j'ai pas de douleur, j'ai un taux de fer normal, j'arrive à faire du sport, enfin comparé à l'année dernière et à il y a 3 ans, ça va.
Oui, c'est ça, donc outre l'aspect vraiment vie sexuelle qui peut quand même être assez présente dans la vie étudiante, sous le reste, donc le fait de potentiellement d'aller en soirée ou de, en tout cas d'interagir avec des gens socialement, ça va grâce à la pilule.
Tout à fait, oui.
Et enfin, est-ce que tu aurais une recommandation d'œuvre au sens très très large du terme, donc que ce soit littéraire, musical, filmographique, un compte Instagram, peu importe, qui soit à aider à mieux comprendre ou à accepter l'endométriose, ou soit simplement que tu apprécies et que tu voudrais partager aux auditeurs et auditrices?
Alors, j'aurais 3 œuvres si tu permets. D'abord, j'ai déjà parlé de la chaîne YouTube Parlons peu, mais parlons, notamment l'émission sur l'endométriose, parce que c'est un bon moyen de connaître l'endométriose, de se faire une image de cette maladie, même si, quand on n'en a jamais entendu parler. Après, une œuvre allemande, désolée, mais du coup pour les germanistes et germanophones, ça pourrait peut-être être intéressant. Un livre qui est assez mal écrit malheureusement, mais qui retrace bien l'histoire de souffrance et de douleur d'une personne qui est atteinte d'endométriose, qui s'appelle « Nicht ohne meine Wärmflasche »,« Pas sans ma bouillotte », de Martina Liel, ou Liel, L-I-E-L. Et finalement, un livre, je crois, qui vient tout juste de sortir de Martin Winkler, qui s'appelle « C'est mon corps », qui parle pas que de l'endométriose. Je crois que l'endométriose occupe 2 à 3 pages. C'est un livre qui raconte tout ce qui touche à la santé féminine. Et qui est un livre d'abord très actuel. C'est lui qui parle de ce nouveau traitement qui est mise en exercice à l'hôpital de Lyon, et d'autres choses encore, donc tout ce qui est empouvoirement de soi-même, tout ce qui est prise en main de la sexualité par les femmes, c'est quelque chose que je trouve hyper important, et je pense que ce livre c'est bien pour ça.
Merci beaucoup Katharina pour avoir répondu à ma question et d'être livrée de cette manière. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était En Différence, l'émission consacrée au handicap invisible, diffusée sur Transistor et produite par Marie Brunner.